une émission proposée et animée par Christine Baron.
On s'était amusé le mois dernier à jouer avec les chiffres de la nouvelle année. Eh bien, le mois de février va battre tous les records. Le jour de la Chandeleur, ce sera le 2-2-22. Et le 22-22, eh bien, ce sera la fin des JO d'hiver à Pékin. 2-0, on dirait un score de foot. Alors, février sera donc placé sous le signe des médailles et des exploits sportifs. Du 4 au 20, la Chine accueillera à Pékin les athlètes de tous les continents pour les Jeux olympiques d'hiver. Alors, on a eu envie de faire du sport, nous aussi, et on a trouvé plein de liens entre les JO et la vie culturelle. D'abord, la langue. Le discours d'ouverture des Jeux continue à honorer la langue de Molière et la mémoire de l'inventeur des JO, Pierre de Coubertin. Même si elle cède du terrain face à l'anglais, elle reste l'une des deux langues officielles. Les Jeux d'hiver sont nés en 1924 à Chamonix et la France les a accueillis à deux autres reprises, en 68 à Grenoble et en 92 à Albertville. On n'a pas oublié les spectacles d'ouverture grandioses inventés alors par Philippe de Coufflet. Voilà donc le deuxième lien entre les JO et la culture, parce que des artistes renommés mettent leur talent à contribution pour attirer la lumière sur le patrimoine du pays qui accueille les compétitions. Et Philippe de Coufflet, le célèbre chorégraphe, poursuit brillamment sa carrière artistique puisqu'il a présenté en décembre dernier Shazam au Théâtre de Caen, 20 ans après sa création. Enfin, même si l'incertitude plane sur le déroulé de ces JO de Pékin, on sait que le sport entretient une grande complicité avec la culture. Le sport à l'écran, au cinéma, en littérature, au théâtre, des écrivains amoureux du sport, des sportifs écrivains, comédiens, chanteurs, les sujets ne manquent pas. Alors, ce mois-ci, on va organiser nos JO de la culture. En faisant défiler d'abord ce qui nous a marqué en janvier. En écoutant ensuite l'interview d'un athlète champion de France du 400 mètres en salle, qui est au cœur du récit de Mathieu Palin, qui vient de remporter le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. En relisant quelques pages des Plaisirs du sport, publiées en 1925 par Jean Prévost, et en sélectionnant évidemment quelques événements qui devraient nous réjouir en février. Alors, on enfile nos baskets, on reprend son souffle. 5, 4, 3, 2, 1, partez, en route pour les médailles, en route pour la quatrième de couverture de février. Alors, avant de plonger dans le programme toujours chargé des épreuves des JO qui seront retransmises en février, on a eu droit à un week-end très sportif en janvier. Oh là là, il fallait choisir entre les horaires de cinéma du Festival Télérama, ceux du programme du Goût des Autres au Havre et les nuits de la lecture sur tout le territoire, sans oublier évidemment les préinscriptions, les masques, le jet, etc., etc. De quoi décourager les plus curieux ou pas. On a écouté les écrivains dévoiler leurs secrets au Havre, Mazarine Pinjot, Christine Ongot. C'était le thème retenu cette année, le secret. On a retrouvé avec plaisir les mystères de l'amour dévoilés pour les nuits de la lecture, qui avaient choisi la citation de Victor Hugo, « Aimons toujours, aimons encore » comme guide pour cette nouvelle édition. Et Agnès de Sarthe a repris à la médiathèque de Saint-Jouin-Bruneval la lecture de son éternel fiancé, dont on avait diffusé un extrait dans notre quatrième de janvier. On a été tenté, après les 10 ans du festival Le Goût des Autres, de célébrer les 20 ans du musée d'art et d'industrie de Roubaix, installé dans ce lieu magnifique qui lui a donné son nom, la piscine. Et pour affirmer plus fort encore son lien avec l'eau, avec les bassins, avec le sport, avec le corps, le musée a proposé, et ceci jusqu'au 6 février, une exposition consacrée à Suzanne Haye et intitulée « À la piscine ». Des nageurs au bord des bassins, sous les douches, des séries où l'eau est toujours présente, des toiles grand format accrochées aux cimaises carrelées qui entourent le bassin d'origine, comme une mise en abîme superbe, comme un hommage aussi à cette jeune artiste allemande décédée tragiquement en 2004 à 42 ans, en voulant sauver deux enfants en détresse dans un lac, comme si cette eau qui l'avait tant inspirée annonçait, comme dans les tragédies grecques, la noyade inévitable. Elle aimait les thèmes mythologiques et les martyrs, ce qui reste quand il n'y a plus rien, l'homme face à sa chair, livré aux besoins de son corps ou bien face au corps de l'autre. Ça, c'est ce qu'écrivait Emmeline Landon, son amie, peintre elle-même et écrivain, dans le livre qu'elle lui avait consacré en 2006, intitulé « Suzanne ». Un destin tragique qui trouve un écho émouvant dans cet ancien établissement de bains très inspiré par la culture antique. Le temple de l'hygiène, c'est ce que revendiquait son architecte, Albert Behr, à son inauguration en 1932. Des mosaïques qui évoquent les thermes romains, un bassin de taille presque olympique, 40,80 m, en l'honneur des jeux organisés dans la Grèce antique, et une magnifique tête de Neptune pour alimenter le bassin en eau qui sera très vite rebaptisé par les baigneurs la tête de lion. La piscine, un lieu magique qui allie, grâce à cette exposition, l'art et le corps, l'art et le sport. Et des corps aussi parfois différents, tourmentés. Et on pense alors à d'autres corps différents, présentés aussi dans l'univers très photogénique d'une piscine. C'est la série télévisée Vestiaire, qui déroule depuis 11 ans ses petites capsules de 3 minutes sur France 2. Et ses héros sont tous des nageurs handisport. Un bel hommage, là encore, aux corps différents. Et on comprend que le dernier roman de Clara Dupont-Moneau, S'adapter, ait accumulé les distinctions cette année, prix Femina, Goncourt des lycéens, parce que c'est le récit d'une fratrie qui accueille un petit frère handicapé et qui a reçu un accueil unanime. Il a été mis à l'honneur en janvier, au Havre, au festival Le Goût des Autres. Si cette fête de la lecture a réussi à se maintenir en public, d'autres manifestations culturelles ont été suspendues par le Covid. C'est ainsi qu'en janvier, on aurait aimé découvrir le dernier spectacle de Pauline Bureau sur la gestation pour autrui. Pour autrui, justement, c'est le titre. Annulé pour cause de Covid, une fois de plus, la jeune metteuse en scène s'est emparée d'un sujet sensible, comme elle sait le faire avec talent. Scandale du Mediator avec Mon cœur, inspiré du combat d'Irène Frachon. Épopée de la première équipe de France féminine de foot avec Féminine. Pauline Bureau poursuit ses grands récits de femmes, servies par des comédiennes étonnantes et des mises en scène audacieuses. Et il en fallait de l'audace quand même pour inviter sur scène, dans un théâtre, un sport aussi populaire que le foot. Et raconter l'aventure d'une poignée de femmes qui ont porté le foot féminin d'une simple kermesse à Reims en 68 à la Coupe du Monde en 1978. En janvier d'ailleurs, un autre spectacle a tissé lui aussi des liens avec un stade de foot. C'est le syndrome du banc de touche. Une pièce présentée le 25 janvier à Mont-Saint-Aignan et en tournée depuis en Normandie. Une façon de mettre en parallèle l'attente des intermittents du spectacle et des joueurs sur le banc qui espèrent qu'on va les engager très vite à rejoindre ou la scène ou le terrain sous les acclamations du public.
ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, necesario a tocar para Borruchaga, siempre Marabona,
cet étonnant mélange de musique et de bruit de stade, un match de foot, un spectacle. Eh bien, c'est le commentaire de Morales pendant le match Argentine-Angleterre en 1986 à Mexico que Benjamin Biolay avait glissé dans son album Palermo Hollywood, consacré en 2016 à Buenos Aires. Un match de foot mémorable où un jeune prodige du ballon rond a laissé une trace indélébile au point d'être au centre d'un film qui sera en compétition pour les Oscars en 2022. Le joueur, c'est Diego Maradona. Le film, c'est La main de Dieu. Et La main de Dieu, c'est le fameux but qui permit à Maradona d'entrer dans la légende et de faire gagner son équipe d'Argentine contre l'Angleterre. Et ça, c'était en quelle année? Eh bien en 86, comme le CD de Benjamin Biolay. Donc en janvier, on a appris que ce film de Paolo Sorrentino, qui a obtenu le Grand Prix à Venise à l'automne, sera en lice pour les Oscars. Ce sera l'occasion pour le cinéaste de rendre un double hommage à sa ville de Naples et à sa passion pour son joueur adulé, Maradona, passé des bidonvilles de Buenos Aires aux podiums les plus prestigieux. En janvier, au cinéma, toujours, le public a plébiscité Ouistreham, le film qu'Emmanuel Carrère a adapté du récit de Florence Aubenas. Autour de Juliette Binoche, une équipe de non-professionnels a attiré notre regard sur ce personnel d'entretien, ces invisibles passés eux aussi de l'ombre à la lumière des écrans. Eh bien, d'autres journalistes se sont emparés du réel, comme Florence Aubenas, et ont tiré de leur expérience personnelle un récit applaudi par les critiques littéraires. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Mathieu Palin, qui vient d'être couronné par le prix du roman des étudiants France Culture Télérama 2022. Après son premier livre « Sale gosse », le portrait d'un athlète français triple médaillé olympique, « Ne t'arrête pas de courir », raconte la vie de Toumani Koulibaly, vainqueur le jour, voleur la nuit, champion de France du 400 mètres en salle, mais incarcéré pour de multiples cambriolages. Et c'est dans le parloir de sa prison que l'auteur a rencontré Koulibaly et leurs échanges sous forme d'interviews nourrissent le livre. Alors que je sortais de 15 jours de vacances sans connexion, j'ai rallumé mon portable et découvert un texto reçu d'un numéro inconnu.
Salut Mathieu, c'est Toumani.
Il m'a fallu un moment. Toumani Koulibaly?
Oui, c'est bien moi, le sprinteur.
Mais vous avez reçu ma lettre?
Oui.
Je suis à l'étranger avec très peu de réseau. Seriez-vous d'accord pour se voir?
Oui, très bien reçu. Je l'ai conservé. Je ne suis plus à Fresnes, mais toujours incarcéré à Réau. On peut reprendre contact à votre retour, pas de souci.
À Réau?
Oui. Comme j'ai pris un certain nombre d'années de prison, j'ai été transféré en centre de détention.
Et vous arrivez à vous entraîner?
Oh oui, je m'entraîne très très dur. Je n'ai jamais lâché le sport. Depuis le premier jour de mon incarcération, je m'entraîne sans relâche. Je cours autour d'un grand terrain de foot en synthétique qui fait 250 mètres. J'y ai accès tous les jours. Pareil pour la musculation, je cours en promenade aussi. Le week-end, je fais du renforcement. Et d'autres sports aussi, de la boxe pour le cardio, volley pour la détente, yoga pour la gestion de mon souffle. Ah, j'ai repris mes études et obtenu mon BTS de comptabilité en juin dernier. Et je me soigne à travers les psys.
tout ça, mais c'est dingue. Et vous pensez que je pourrais obtenir un parloir ?
Oh oui, bah je ne dépends plus du juge. Vous y aurez droit, je vous envoie les démarches à faire.
Et voilà comment je me suis retrouvée ce mercredi aux alentours de 8h45 à patienter dans une cabine de parloir du centre pénitentiaire du sud francilien. Et le sport, t'y crois encore ?
Oh, je m'entraîne pour ça, pour revenir. Mon objectif, c'est les Jeux Olympiques à Paris en 2024.
Mais t'es de 1988 comme moi. On aura 36 ans en 2024. Tu penses que tu seras pas cramé ?
Oh, j'en sais rien. Faudra juger sur place. Mais je m'entraîne dur. Je cours. Je mange bien. Je dors à 22 heures. J'ai jamais bu. J'ai jamais fumé. Je ne suis pas abîmé.
Et à quoi tu penses quand tu cours comme ça, au milieu des détenus ?
Ah, à la foule, aux speakers dans le stade, aux concurrents que j'aperçois dans les coins. Je pense à ça quand je cours. Plus du tout à la prison.
Jugé en janvier après 4 années en prison, Toumani Coulibaly vient de retrouver sa liberté jusqu'au verdict qui sera prononcé au mois de décembre, ce qui lui permettra peut-être de participer au prochain championnat de France. L'esprit humain est fait pour s'occuper du corps humain. Ça, c'est ce qu'écrivait un grand sportif normalien, Jean Prévost, en 1925, dans la préface inédite de ses essais sur le corps humain, réunis sous le titre « Plaisir des sports ». On connaît Jean Prévost pour le lycée qui porte son nom à Montivilliers. On connaît moins peut-être son engagement dans la résistance qui coûtera la vie en 44 à 43 ans à ce résistant appelé Goderville, en souvenir de son enfance en Normandie. Et connaît-on encore Jean Prévost, l'auteur qu'il faudrait considérer comme un prix Nobel en puissance ? Cette phrase-là, c'est Roger Nimier qui l'a prononcée et elle figure sur la 4e de couverture du livre « Plaisir des sports ». On a ouvert ce livre avec Hervé pour se retrouver un soir d'été au bord de la Loire.
Amitié du fleuve. Abêti tout le jour par la chaleur, un peu de conscience nous revint vers le soir. Mon camarade et moi descendîmes à la Loire. Les murs de briques dans les rues reflétaient sourdement le soleil disparu, mais le quai de pierre ne gardait qu'une tiédeur humaine. Nous passâmes dans une barque plate, dont la chaîne bruissa et tomba dans l'eau. Sitôt nos coups et nos épaules soulagés de vêtements, Robert prit les rames et tira mollement, bras allongés, en se renversant en arrière. Je mis la main dans la rivière amaigrie et mal consolée du soleil. Le souvenir du jour qui venait de s'éteindre me brûlait le fond des yeux, la nuque, et me salait les reins. De la chaleur de midi amassée dans mon épaisseur et trop faiblement évaporée, de l'amertume mal séchée aux aisselles, autour des yeux et sur les lèvres, naissait dans ma cervelle et sous ma peau le désir du fleuve. Nous dérivâmes doucement jusqu'au-delà des quais, où se relâchait le courant parmi des îles et des sables, cessait presque de couler, ne filait plus qu'en hésitant. Nous imitâmes son loisir, les rames pendirent, l'air qui s'adoucissait sur cette plaine d'eau nous contenta enfin. Sans hâte, la petite Loire débrouillait ses méandres, et les lents tournoiements du canot en dérive nous compliquaient encore ses détours infinis. Le couchant s'éteignit. L'eau se fit noire et plus étrangère. Je la désirais davantage. Sitôt dévêtu, j'empoignais la chaîne d'arrière et passais dans l'eau, pied en avant. La plongée me sembla rude. Seule la pesanteur restait brutale dans l'universel affaissement des forces. Mais l'eau fut amicale et m'adoucit la bouche et les yeux. La pression autour de ma poitrine me plut. Comme dans le plateau d'une balance sensible, de lentes oscillations me ramenaient à l'équilibre, quand Robert se mit à ramer. Accroché d'un bras et la tête posée sur le bas de la chaîne suspendue en feston, l'eau me poussa vers la position de la planche et pour m'y maintenir, se multiplia sous mon dos. Au genou, au ventre, au cou, j'avais déjà cessé de la sentir. Elle plaisantait à mes oreilles, pesait doucement sur mon souffle. Puis elle insinua en moi de nouveaux plaisirs. Elle me maniait librement, et mes articulations abandonnées tournaient lentement sans effort. Elle me caressait au lieu fin de la peau, aux aisselles, au creux des pieds et des mains. À la saignée, elle glissait sous mes jarrets en les soulevant, et les baignait d'un tel bonheur qu'ils semblaient s'en dissoudre. La vitesse s'accrut. Mon corps tira davantage. Ses éléments divers se soumirent. Si la carcasse ne fléchissait qu'à peine, les fluides refoulés tout à l'heure, à l'intérieur par une pression uniforme, se répartissaient maintenant selon les différences des poussées et des remous. Mes bras s'amenuisaient, ma taille se serrait, le bas des hanches s'amplifiait et je sentais s'alourdir mes jambes à la remorque. Même dans l'étrave, presque immobile de la tête, les tempes et les joues avaient cessé de se creuser. Et leur revenait en abondance le sang familier. Le caressant massage avait fait glisser loin de moi, épars dans l'eau claire, la brûlure et l'accablement du jour. Mon bonheur fraîchit et se colora comme la brume des prés au premier matin.
Merci Hervé, merci Chet Baker, merci pour la douceur de cette baignade un soir d'été. Et en attendant de lire ou relire Les plaisirs du sport de Jean Prévost, on va sortir nos agendas et chercher quelques dates pour éclairer notre mois de février. Alors qu'est-ce qui nous attend en février ? Eh bien, on a encore quelques jours pour découvrir les tableaux de Suzanne Haye à Roubaix et ses nageurs au musée La Piscine. On aura le temps, en revanche, de profiter jusqu'en mai de l'hommage collectif rendu à Yves Saint-Laurent dans 6 musées parisiens. Si on doutait encore dans la quatrième de couverture de décembre des liens impossibles entre la mode et la culture, nous voilà rassurés. Et Télérama annonce l'événement avec, en couverture, la superbe photo noir et blanc d'Yves Saint-Laurent, nu comme une statue antique, prise en 1971 par Jean Lussieff. Yves Saint-Laurent au musée au pluriel, au Louvre, à Orsay, au Centre Pompidou, au musée Picasso, on aura l'embarras du choix. 60 ans après son premier défilé, ses créations dialoguent avec les plus grands peintres, Mondrian, Picasso, Matisse, Andy Warhol, qui lui inspirèrent ses robes les plus célèbres. Le Maroc, lui inspira les alliances de couleurs audacieuses qui naîtront à Marrakech, dans la villa bleue du peintre Majorelle, qui deviendra son refuge. Puis le musée que l'on connaît. Et si on ne peut aller ni au Maroc ni à Paris, on pourra toujours relire les « Lettres à Yves » que Pierre Berger lui adressa après sa disparition pour immortaliser leur amour de l'art et de la vie. Ou alors revoir les films où des actrices célèbres ont porté ses plus belles créations. L'impère de Catherine Deneuve dans Belle de jour, la garde-robe sexy de Romy Schneider dans Max et les ferrailleurs, ou la robe d'Isabelle Adjani dans Subway. En février, il sera beaucoup question de cinéma une fois de plus. Isabelle Adjani, justement, accompagnera François Ozon à Berlin pour le 72e Festival de cinéma et c'est Petra von Kant qui fera l'ouverture d'une sélection qui mettra les films français à l'honneur. En février, la cérémonie des Césars suivra avec une sélection resserrée, comme chaque année, autour de quelques films. Ce sera le 25 février. On espère voir projeter d'ici là le film où Swann Harlow interprète Jan Andrea, le dernier amour de Marguerite Duras dans « Vous ne désirez que moi » de Claire Simon. Swann Harlow, justement, qui avait reçu en 2020 un César pour son rôle dans « Grâce à Dieu » de François Ozon, « La boucle est bouclée ». Les amoureux du cinéma seront donc gâtés en février, mais les amoureux tout court aussi, parce qu'on n'a pas oublié de cocher la Saint-Valentin le 14 février sur nos agendas. Et pourquoi ? Pourquoi ? Bah, parce que c'est si bon.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good.
C'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.
Every word, every sigh, every kiss, dear,
leads to only one thought, and it's this, dear.
It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace.
And if you only would,
if you only would
be my own. Whisper this phrase, my darling, c'est si bon.
Merci Diana Kral, merci Guy Pop et merci Thomas Dutronc. Merci Gilles, merci Hervé, merci Joanne, merci Valentin. Bon mois de février à vous tous et vibrez devant les JO, lisez, allez au cinéma, au musée ou à la piscine parce que c'est si bon. Et rendez-vous le 28 février pour la 28e édition.
C'était la 4e de couverture, une émission proposée et animée par Christine Baron.